On va lire quelques versets rapidement. C'est le moment où Moïse se trouve sur une montagne et il est en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Exode chapitre 25, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » Bon, ça fait une sacrée liste. Mais regardez ce qu'il est dit. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Amen. Vous avez vu cette parole? Bon, c'est pas une question d'offrande ce matin, c'est pas sur l'offrande dont je voudrais parler. C'est sur la question que tout ce que Moïse a expérimenté, tout ce qu'il a pu apporter au peuple d'Israël, il est dit qu'il a fait d'après le modèle qu'il a vu sur la montagne. Regardez dans quelques versets plus loin, verset 31. « Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. » Il y a beaucoup de symboles, on va pas le temps ce matin de voir tout ça. Mais regardez au verset 39. « On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Chapitre 26, tu feras dans le tabernacle avec 10 tapis de fin, le retors, etc., etc. Et on va tout à la fin de ce chapitre. Alors, exactement, c'est au verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré, où ça? Sur la montagne. Tu feras, au verset, chapitre 27, verset 1er, tu feras l'autel du bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. Et regardez encore ce qu'il est dit au verset 8. Il sera fait tel qu'il t'est montré. Où ça? Sur la montagne. Sur quelle montagne? Est-ce qu'il est question? Oui, Moïse était au Sinaï. Mais pour nous, quelle montagne? Il faut aller pour recevoir de Dieu cet éclairage qu'il veut nous donner, ce modèle qu'il veut nous donner. Parce que on voit bien que ce que Dieu désire, pour Moïse, il désirait qu'il y ait un tabernacle, cette tente où il allait manifester sa présence, où la présence de Dieu allait accompagner ce peuple qui était dans le désert, dans des conditions difficiles, il y avait une tente qui symbolisait la présence de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Dieu veut manifester sa présence et Dieu nous demande que nous puissions construire, bâtir un temple dans lequel sa présence va pouvoir se manifester. C'est quel temple? Est-ce que c'est cette église ici? Est-ce que c'est une église à Montauban? Où c'est que ça se trouve? C'est nous le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu veut nous donner un modèle avec lequel nous allons pouvoir bâtir ce temple pour que sa présence se manifeste. Est-ce que vous voulez que Dieu habite au milieu de vous? Dans votre cœur déjà, mais qu'est-ce que nous voulons que Dieu habite au milieu de nous par son esprit dans ce lieu, enfin surtout dans le rassemblement des frères et des sœurs? Alors il y a une montagne dont il est question dans la parole de Dieu où nous voyons un modèle qui est donné. Et ce modèle, il est donné par le plus grand de tous les prédicateurs. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à cette époque où Jésus lui-même, il enseignait la foule, où Jésus lui-même, il faisait les sermons. Et en plus, c'est dans une des premières prédications qu'il a apportées, où il est venu montrer, donner le plan de ce que Dieu avait en projet pour l'humanité. Alors quand on voit comment Dieu a donné les choses dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a donné la loi. Tu ne feras pas ceci, tu feras cela, etc. Mais là, ça commence pas de cette manière. Ça commence avec un autre mot, qui nous montre ce que Dieu a voulu donner un éclairage nouveau à cette loi. Heureux. Heureux, ça veut dire béni. Et c'est dans Matthieu chapitre 5. Je voudrais voir ce matin, on n'a pas le temps de voir toutes les versets qui sont là, mais au moins les trois premiers versets. Matthieu chapitre 5, c'est l'endroit où Jésus dresse un modèle. Et si nous appliquons ces choses dans notre vie, alors immanquablement, sa présence sera manifestée dans nos cœurs. Voici le modèle qui est donné. Regardez, on peut lire le premier verset pour comprendre le contexte. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ou ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Cette portion que nous avons lue, c'est qu'une petite portion de tout ce grand message qui est donné sur cette montagne. Si ça concerne les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, et je vous invite à lire ces choses, parce que dans ce condensé, dans ces trois chapitres, il y a vraiment tout le plan, tout le modèle que Dieu a voulu donner pour que nous puissions marcher devant Dieu de la façon dont il le décidait. Et là, dans ces paroles de Jésus, il y a un modèle du caractère du disciple. Il y a un modèle de ce que nous devons vivre. Ça faisait des siècles, dans ce contexte-là de Matthieu, ça faisait des siècles qu'un prophète n'avait pas apporté une parole. Ça faisait plus de 400 ans qu'un prophète n'avait pas parlé de la part de Dieu. Puis est venu le temps où Jean-Baptiste a dit « Je vous annonce la venue de quelqu'un d'autre qui va arriver de plus grand que moi. » Et tout le monde était un petit peu dans cette attente. Et alors que l'Ancien Testament, vous vérifierez ces choses, dans Malachie, ça termine sur une note un petit peu négative. Ça termine sur Dieu qui menace de frapper le pays d'interdit. Jésus, il commence avec cette parole de grâce. Heureux, béni, c'est le même mot. La bénédiction de Dieu, elle est pour ce genre de personnes dont je vais parler. Et c'est ce que Jésus est en train de dresser, ce modèle. Ce modèle du véritable bonheur. On est dans un monde où les gens croient que le bonheur, pour être heureux, il faut avoir tout ce qu'on désire tout de suite, sans tarder. Et dès qu'on obtient ce qu'on désire, on croit qu'on va être heureux. On est heureux pendant quelques instants, mais qu'est-ce qui se passe? Ben après, on veut autre chose. Et on veut toujours plus, et on n'est jamais satisfait finalement. Et le Seigneur, il est totalement dans une autre optique. Quand on voit, quand on résume un petit peu ses paroles, il nous parle de pauvreté, il nous parle d'affliction, il nous parle d'être dans la douceur, d'être dans la faim, des choses négatives apparemment. Et il nous dit, c'est ça le chemin du vrai bonheur. C'est ça le chemin qui permet d'obtenir ce bonheur ineffable, ce bonheur qui vient de Dieu. Le mot heureux, ça veut dire le bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Le bonheur qui n'est pas attaché à ce que nous vivons. Le bonheur qui est attaché à la présence de Dieu. C'est comme un fleuve qui coule avec abondance dans la présence de Dieu et auquel on peut venir puiser continuellement. Qu'est-ce que vous préférez, avoir un verre d'eau de bonheur ou avoir un accès illimité à un fleuve de bonheur et de grâce et d'abondance qui coule? On préfère tous la deuxième option. Pourquoi? Parce que le verre d'eau, ben, une fois qu'on l'a bu, il est fini. Et c'est ça le bonheur de la terre. C'est des choses qui sont tellement petites. Une fois qu'on l'a bu, ben, on a soif à nouveau. Mais à la présence du Seigneur, on peut être renouvelé de manière continuelle. Aujourd'hui encore, nous pouvons avoir accès à ce fleuve de bonheur et de bénédiction. Oh, ça veut pas dire que cette bénédiction, ça nous préserve de tout mal, puisque quand on voit le programme du Seigneur, on voit que c'est des choses qui sont pas évidentes, mais justement, c'est un bonheur qui transcende même les difficultés. C'est un bonheur qui fait que même si on est dans les moments difficiles, on est capable d'avoir cette joie surnaturelle, cette joie qui vient directement du ciel, on est capable de se réjouir en Dieu. Et quand on lit les psaumes, on voit toutes sortes de choses. D'ailleurs, on se rend compte même, le livre des psaumes, comment il commence? Heureux. C'est un désir de Dieu. Ça a été depuis des siècles déjà, mais c'est encore le désir de Dieu aujourd'hui. Alors, on va commencer de manière très simple. Les trois premiers, ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux, le bonheur et la bénédiction de Dieu, il est disponible pour celui qui est pauvre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre dont il est question ici, ça concerne pas la richesse déjà. L'image qui est donnée, C'est l'image de quelqu'un qui est totalement dépourvu. Alors bien sûr que ça s'applique. Il y a des histoires dans la Bible où on voit par exemple la pauvre veuve qui vient donner quelques sous dans le tronc et qui a donné plus que tous les autres, qui en donnait eux des, qui faisait sonner les pièces pour montrer combien ils étaient riches, mais qu'ils faisaient dans un mauvais état d'esprit. La veuve était pauvre, elle était démunie de tout, mais elle a choisi quand même de donner un petit quelque chose à Dieu. Et c'est cette pauvreté-là où on est totalement sans ressources, où on est obligé de prendre ce que les autres vont pouvoir nous donner, où on est obligé d'être dépendant de celui qui est autour de nous. Cette pauvreté qui est extrême, cette pauvreté qui est totale. Et la Bible nous dit que Jésus nous dit lui-même, c'est les pauvres en esprit. C'est pas les pauvres dans leur porte-monnaie, mais c'est les pauvres en esprit qui vont avoir cette bénédiction. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont totalement dépourvus de toute chose, d'un point de vue de l'esprit. Alors, c'est pas, je me souviens de quelqu'un qui m'avait raconté cette histoire. Une dame qui avait perdu son enfant, qui avait eu une grossesse difficile, elle a perdu son enfant et elle se demandait est-ce que son enfant, il était au ciel? Est-ce qu'elle avait le droit de se demander ça? Ben, c'était légitime comme question. Et elle a lu ce passage, elle connaissait pas du tout la Bible, elle connaissait pas Dieu, elle connaissait rien. Elle a lu ce passage, elle a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et elle a pris ce verset en se disant « Mais mon enfant, il était pauvre en esprit, il n'avait pas sa conscience, donc le royaume des cieux est à lui. » Vous voyez ? Même si c'est pas ça que ça veut dire, Dieu s'est servi de ce verset pour lui donner la certitude. Et c'est vrai, les enfants, les bébés, les enfants qui meurent quand ils n'ont pas encore cette conscience du bien et du mal, eh ben ils vont directement dans le ciel. Parce que Dieu, nous sommes jugés aussi d'après notre conscience. Mais quand nous n'avons pas cette conscience, ben le Seigneur, il nous prend auprès de lui tout simplement. Et cette dame est venue au Seigneur à cause de ce verset qu'elle avait mal compris. Et par la suite, elle s'est rendue compte, elle a dit, mais non, c'est pas ça. C'est les pauvres en esprit, ceux qui sont pauvres d'un point de vue spirituel, ceux qui se rendent compte qu'ils n'ont rien à apporter à Dieu, tout ce qu'ils font sur cette terre. Et même ce qui est religieux ne sert à rien pour le Seigneur tant que nous n'avons pas accepté qu'il nous donne une vie nouvelle. Nous pouvons faire beaucoup de choses, on peut même chanter tout le culte, mais si notre cœur n'est pas transformé par le Seigneur, mais c'est pas une adoration véritable qui monte vers Dieu. La plus belle adoration que l'on peut faire, c'est de donner notre vie à Dieu. Et après, on chante les cantiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait le matin. Parce qu'on est tellement heureux de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Heureux les pauvres en esprit. L'opposé, c'est l'orgueil spirituel. Et on connaît ces passages où des gens dans une église sont capables de dire « Moi, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. » Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas pauvres en esprit? Combien de personnes se servent de ça comme excuse pour ne pas faire ce qu'il faut? Combien de personnes restent dans leur orgueil, restent fermées en se disant « moi je peux m'en sortir tout seul » et du coup n'ont pas accès à cette bénédiction que Dieu propose à tous? Dans Deutéronome chapitre 8, il est dit « garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est ma puissance qui m'ont acquis ces richesses ». Bien sûr que quand on travaille dur, eh ben on a le salaire que l'on mérite. Bien sûr, c'est vrai qu'il faut, suer, tu travailleras à la sueur de ton front, nous dit la parole. Mais souvenons-nous toujours que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous en donne la grâce de le faire. Nous avons la possibilité de le faire. Le travail que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Le toit que nous avons sur notre tête, c'est la grâce de Dieu. La famille que nous avons, même si nous avons participé à la conception de nos enfants, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et il faut toujours se reconnaître pauvre et que toutes les grâces, tout ce que Dieu nous donne sont des grâces que Dieu nous donne. Et cela, ça nous permet de nous présenter devant Dieu avec beaucoup d'humilité. Mais attention, il y en a qui sont très orgueilleux, mais il y en a qui sont aussi trop humbles. Vous savez, des fois on peut se faire piéger. La Bible, elle nous parle d'équilibre. Il faut pas être dans les extrêmes. Le piège de la fausse humilité. Oh, je reconnais que je ne suis rien. Ah, Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien, tu ne pourras jamais te servir de moi. Et du coup, on attend comme ça les bras croisés, que la vie passe, et on se dit, de toute façon, je ne pourrai jamais faire entre les mains du Seigneur. Mais la foi, c'est d'abord de reconnaître qu'on est pauvre en esprit, mais de reconnaître aussi que le Seigneur est celui qui veut nous donner son royaume. Et son royaume, il commence ici-bas sur cette terre. Oh, non pas qu'on va posséder des terres ici-bas, c'est pas ça dont je parle. On va pas devenir des rois ici, président. Si vous avez envie de le devenir, présentez-vous. Il y a pas mal de candidats en ce moment. Mais on sait jamais si vous avez ça sur le cœur. Mais c'est pas ce royaume dont il est question. C'est le royaume spirituel de Dieu qui veut s'établir dans les cœurs, d'un Dieu qui nous aide à régner nous-mêmes dans nos propres vies. Nous verrons ces chances tout à l'heure. En tout cas, ne tombons pas dans le piège de la fausse humilité aussi. Devant Dieu, on peut dire « Oui, je ne suis pas assez intelligent. Oui, j'ai du mal à comprendre ta parole, Seigneur. Alors, je la lis plus. » Non. Seigneur, j'ai du mal à comprendre ta parole. Ouvre mes yeux. Illumine les yeux de mon cœur. Faisons la prière comme David. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je comprenne ta parole. Et quand on fait cette prière de tout notre cœur, quand on vient devant Dieu avec humilité, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, parce que Dieu se plaît à relever l'humble. Dieu se plaît à faire grâce à celui qui est humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comment est-ce que l'on se présente devant Dieu? C'est ça la question finalement. La promesse, elle est là. Le royaume des cieux est à vous. L'accès au fleuve de la bénédiction vous est réservé. Il est possible. Ceux qui sont riches à leurs propres yeux, ils sont pauvres aux yeux de Dieu. Et inversement, ceux qui sont pauvres à leurs yeux sont riches pour Dieu. C'est dans un contexte où les pharisiens se croyaient tellement riches. Oh, nous avons la connaissance. Oh, nous connaissons la loi par cœur. Oh, nous avons l'influence sur les gens. On est riche dans beaucoup de choses. Mais le Seigneur est dit, heureux les pauvres en esprit. Est-ce que ce matin, il y a un domaine dans votre vie où vous pouvez dire, Seigneur, je suis pauvre de ça, mais je crois que tu veux me donner plus parce que tu m'aimes. Heureux les pauvres. Heureux aussi celui qui pleure. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a de multitudes de raisons de pleurer dans notre monde aujourd'hui, on est d'accord. Ce serait intéressant de savoir, c'est quand la dernière fois qu'on a pleuré et pour quelles raisons. Oh, il y en a des raisons. Quand on perd son travail, quand on perd, on a des problèmes financiers, quand on perd sa réputation, quand on perd la santé, quand on perd un être cher, quand on a des problèmes dans les relations. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent nous faire pleurer. Mais les pleurs dont il est question ici, c'est quelque chose de très bien défini, c'est précis. C'est pas n'importe quel pleur. C'est les pleurs parce que on a perdu quelque chose de très cher. Ou quelqu'un qui nous était très cher. C'est en fait les pleurs, l'affliction quand on est dans le deuil. Ce sont les lamentations profondes, intenses d'une personne envers la personne qu'elle aime et qui est partie. C'est ce contexte-là. C'est le mot affligé, ça veut dire ça. Et le Seigneur désire et il nous promet ce bonheur de bénédiction, ce fleuve de bénédiction plutôt, à tous ceux qui pleurent dans cet état d'esprit. Celui qui pleure justement parce qu'il a reconnu sa pauvreté spirituelle. Celui qui pleure sur son péché. Celui qui pleure face à la souillure de son âme qui tranche tellement par rapport à la sainteté de Dieu. Est-ce que vous avez déjà pleuré en réalisant combien vous étiez sale devant Dieu? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. De dire, Seigneur, comment tu as fait pour aimer quelqu'un comme moi? Toi qui es tellement parfait, comment tu arrives à regarder les hommes qui sont pécheurs? Mais il le fait. Et mais quand on reconnaît son amour, quand on laisse le Saint-Esprit travailler dans notre cœur, alors il y a ce moment où on est convaincu de péché, où on se sent coupable devant Dieu, et il y a des pleurs qui sont là, qui germent. Mais c'est le Seigneur nous dit, ça c'est un bon pronostic, parce que ça amène une grâce particulière derrière. Heureux ceux qui sont affligés, heureux ceux qui pleurent, dans ces conditions, dans ce contexte-là, car ils seront consolés. Quand on pleure parce qu'on a fait n'importe quoi dans notre vie, et qu'on a des conséquences qui tombent sur nous, ben, c'est les choses qu'on récolte tout simplement. Ça va pas produire de la consolation. La consolation va venir quand on va dire, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi, je te demande pardon. Et là, le Seigneur va nous consoler. Vous comprenez? Et c'est toujours dans cette progression. D'abord, on se reconnaît pauvre, on pleure sur notre péché. Et puis, le Seigneur, il est en train de faire son œuvre dans notre cœur. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, elle produit la mort. Elle produit rien. Rien de vivant. Vous savez qu'un nouveau-né, il doit pleurer pour pousser son premier cri. Et parce que c'est seulement de cette façon que ses poumons peuvent s'ouvrir et augmenter. Il y a un docteur qui, par le passé, il parlait d'un enfant qui ne pouvait pas respirer à la naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand dans ces cas-là? Mais souvent, ils le prennent même des fois par les pieds et ils sont obligés de quoi? de taper un bébé, taper un nouveau-né, quel malheur. Et la maman qui voit ça, elle doit avoir son cœur qui se tord dans tous les sens. Mais est-ce que c'est bien? Ah ben c'est plus que bien, c'est vital. Si on, il tape pas, si ne déclenche pas ce cri, s'il n'y a pas les pleurs qui germent et qui permettent à l'air de passer, ben il risque la mort tout simplement. Et Dieu se sert des circonstances pour des fois nous tapter un petit peu, pour qu'il y ait des cris, des pleurs qui sortent, mais pour que nous puissions ouvrir notre cœur à sa présence, ouvrir notre cœur à sa grâce. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège de la résignation ou du manque de foi. Certains y passent leur vie à pleurer, à se repentir, et toujours à revenir en boucle, se repentir sans goûter à la consolation de Dieu. Je connais un homme qui m'a marqué, j'étais tout jeune dans l'église, mais j'entendais tous les dimanches, il se repentait. Tous les dimanches, il se repentait. Bon, à la limite, si c'est pour des choses différentes, on peut se dire, c'est bien, il progresse. Mais c'était à chaque fois la même chose. À chaque fois, il se repentait pour la même chose. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je me repens, mais je ne saisis pas la victoire de Dieu. Si Dieu nous demande de nous repentir, c'est pour que connaître la joie, la grâce de la consolation, la force de résister à la tentation par la suite, et de connaître toute cette chose-là. Mais quand on est dans la répétition, quand on est dans la repentance, sans réparation, sans manifester le fruit de repentance. J'ai parlé à quelqu'un il y a quelque temps qui me disait qu'il était un voleur compulsif, qui vole. Dès qu'elle va dans un magasin, cette personne, elle vole. Et elle veut que les choses aillent avec Dieu. Donc c'est bien. Mais je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a chez vous certaines choses que vous avez volées et que vous avez gardées? Elle m'a dit, mais c'est presque toute ma maison. Et je lui ai dit, mais si vous voulez que Dieu vous bénisse, c'est très bien de se repentir. C'est merveilleux. Mais il faut que vous vous sépariez de tout ce que vous avez volé. Est-ce que c'est dur? Ah ben oui. Si elle a la maison remplie, c'est compliqué. Et je pense pas qu'il faut vider la maison tout d'un coup ou mettre le feu. C'est pas comme ça. Il faut le faire avec sagesse. Mais par contre, il faut être droit devant Dieu. Imaginez que vous avez volé un costume. Tiens, j'ai volé un costume, un magasin de vêtements. J'ai volé le costume. Je me repens devant Dieu. Je me rends compte de ma culpabilité. Puis le dimanche arrive. Ah, il faut que je mette un habit. Mais j'ai le costume là dans l'armoire. Je vais mettre ce costume que j'ai volé. Et puis je vais venir à l'église. Je vais prêcher. Bon, ce serait quand même bizarre si je me mets à voler et que je viens à l'église après. Hein. J'aurais une honte terrible, je pourrais même pas venir devant vous. Mais imaginez, vous êtes là en train de chanter tout simplement, en train d'être dans la présence de Dieu. Seigneur, je t'ai demandé pardon, et puis je porte sur moi ce qui me rend coupable devant Dieu encore. Le Seigneur demande la repentance qui porte du fruit, qui permet qu'on rende ce qu'on a volé, qui permet qu'on se débarrasse de tout ce qui nous retient dans ce monde, tout ce qui est là comme une culpabilité. Ça veut pas dire qu'il faut vider nos armoires, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on a gagnées honnêtement, ben ça, on a le droit de les garder. Mais ce qui n'est pas à nous, Dieu le voit. C'est surtout pour Dieu, parce que les gens peuvent être trompés toute leur vie. On peut donner une apparence aux gens. Le Seigneur est celui qui veut, qui regarde jusqu'au cœur et qui veut nous ouvrir son fleuve de grâce. Mais il nous demande d'avoir cette repentance vraie. Est-ce que vous avez déjà pleuré sur votre péché? Quand c'est la dernière fois que vous l'avez fait? Alors ne répondez pas surtout, hein. Mais combien c'est bon quand on vit ces moments-là. Vous voulez être consolé? Pleurez. Vous voulez la consolation, la grâce de Dieu? Pleurez. Peut-être ce matin. Alors je vous dis pas de verser des larmes de manière forcée, mais laissez le Seigneur travailler votre cœur. Quand on pleure, c'est qu'on a réalisé quelque chose de fort. Quand on pleure, c'est qu'on a laissé, nos sentiments être travaillés par le Saint-Esprit et qu'on en est arrivé à une conclusion qui fait que, qu'on ne vaut rien devant le Seigneur, mais il nous aime quand même. Et quand on fait ça, la promesse, c'est cette consolation divine. Et l'image qui est là, elle est forte, c'est l'image de quelqu'un qui se tient à nos côtés quand on est dans le deuil. La consolation dont il est question, l'affliction c'était dans le deuil, mais la consolation aussi c'est ça. C'est la personne qui est à côté de nous. Vous savez? Je sais pas si vous avez perdu un être cher, ça m'est arrivé. J'ai perdu tous mes grands-parents, les quatre. Et combien ça fait du bien quand on a quelqu'un à côté de nous. Pas qui nous dit forcément de grandes paroles, parce que dans ces moments, on sait pas trop quoi dire, mais qui est là, qui met sa main sur notre épaule. Combien ça fait du bien. Le Saint-Esprit et cette personne qui va être là à côté de nous. Il nous a amené cette consolation quand on accepte de mourir à nous-mêmes quand on accepte d'être dans le deuil à cause de notre péché. Goûtons ce matin à la vraie consolation du Seigneur. Et celui qui va hériter la bénédiction, c'est aussi celui qui fait preuve de douceur. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaires, c'est un mot un peu désuet, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Et des fois même on se trompe dans le sens que l'on donne. C'est heureux ceux qui sont remplis de douceur. Et encore, le mot douceur, on a un petit peu de mal en français à reconnaître ce sens. Dans ce contexte de la parole de Dieu, je vais vous dire ce que n'est pas la douceur. La douceur, c'est le contraire de la violence et de la vengeance. Des fois, on a envie de faire réparation nous-mêmes. On nous fait du tort, c'est moi qui vais régler les choses. Mais non, quand on est doux, on accepte que ça soit pas comme ça. Mais doux, ça veut pas dire mou. La douceur, c'est pas la lâcheté, la mollesse émotionnelle, le manque de conviction, la complaisance ou la volonté d'avoir la paix à n'importe quel prix. On dit rien, on voit quelque chose qui se passe, on dit rien, on fait comme si de rien n'était. Ah, je suis doux. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la lâcheté. La douceur, c'est pas non plus la timidité ou la personnalité réservée. On peut avoir ce genre de personnalité, mais c'est pas ça la douceur. On peut réduire la douceur à une simple gentillesse. La douceur n'utilise pas son pouvoir pour sa propre défense ou à des fins égoïstes. Moïse, c'était un homme très doux, très patient, nous dit la parole. Un des plus patients de toute la terre. Et le mot, c'est le mot, même mot que douceur. Mais quand on voit Moïse, à certains moments, il a dû être ferme. À certains moments, face à la révolte de Corée, il a dû être ferme. Vous êtes d'accord? S'il avait dit, non, je suis doux, je ne vais rien faire. Oui, ils sont dans le péché, il y a de l'idolâtrie, mais bon, c'est pas grave. Mais non, à un moment donné, la douceur s'exprime aussi de manière avec l'autorité que Dieu permet. Et justement, ce qu'est la douceur dans ce contexte, le mot qui est employé à l'époque, il s'en servait pour décrire quand on apprivoisait un animal. Imaginez, ça se faisait pas trop à l'époque les chiens, mais aujourd'hui on le fait beaucoup, les chiens qui sont apprivoisés. Le chien qui est apprivoisé, il mord pas n'importe qui. Puisqu'il est dressé, il sait, il a la puissance, la mâchoire pour mordre, mais il ne mord pas n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne mord jamais. S'il y a le voleur qui rentre dans le terrain avec de mauvaises intentions, il vaut mieux que le chien soit habilité à aller lui faire peur. Comprenez? Et c'est exactement ce que Dieu nous demande de vivre. Jésus nous dit, heureux ceux qui sont pleins de cette douceur-là, qui consiste non pas à tout laisser passer, mais qui consiste à avoir cette force, cette puissance sous contrôle. C'est comme ça qu'était décrit la douceur au temps de Jésus, la puissance sous contrôle. C'est-à-dire qu'à certains moments, ça s'exprime de manière paisible, il y a une bonté, mais à certains moments, il faut aussi de la fermeté. C'est cette douceur-là dont il est question. Jésus est décrit comme le roi qui vient sur le petit d'une ânesse, le roi rempli de douceur. Quand on voit de quelle manière il a pris soin de l'orphelin, il a pris soin des enfants, il a pris soin de la veuve, etc. Il a guéri ceux qui étaient malades. C'est merveilleux cette douceur du Seigneur, ces paroles paisibles. Mais quand on voit aussi comment, des fois, il a dû parler de manière rude envers les pharisiens parce que c'est ce dont ils avaient besoin d'entendre, c'est cette douceur-là dont il nous faut prendre exemple. Et la question qui se pose, est-ce que nous sommes doux? Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous sommes soumis au Seigneur? Ça veut dire quand il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie, la douceur s'exprime par cette soumission au Seigneur. Je crois que c'est toi qui contrôles tout. Seigneur, je te fais confiance. Est-ce que nous acceptons les plans de Dieu sans murmurer? Est-ce que nous acceptons les moments où ça va pas? Le peuple d'Israël nous montre l'exemple de ces gens qui murmuraient continuellement. Dès qu'il y avait une épreuve, hop, les murmures qui sortent. Mais le Seigneur nous dit non. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui sont devant le Seigneur, qui acceptent son plan, qui doivent prendre leurs responsabilités quand la situation l'exige, mais qui sont dans cette douceur-là. Parce que ils hériteront la terre. La promesse, elle est là. Hériter la terre. Ça nous parle déjà de ce moment où l'Église va revenir un jour. C'est ce que la Bible enseigne. Qu'un jour, quand Jésus va revenir, d'abord, il y aura cet enlèvement, nous serons avec lui. Mais après, quelques temps après, nous reviendrons sur la terre, régner avec lui. Ça parle de cette époque lointaine et merveilleuse. Mais ça parle déjà de ces moments où on est sur terre et où on apprécie ce que le Seigneur nous donne. C'est comme si on possédait déjà toutes choses. Peut-être qu'avant, quand on se promenait dans la nature, on ne faisait même pas attention à ce qui nous entourait. Mais quand on est au Seigneur, quand on a laissé, quand on s'est soumis au Seigneur, quand on laisse son esprit travailler notre être, alors même quand on regarde simplement un insecte, quand on regarde une fleur, c'est une occasion pour bénir Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand je regarde la nature autour de moi, il y a des moments où je m'arrête et je peux que dire, Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand. Toi qui as fait ça dans les petits détails, la petite fourmi qui est là, qui est avec ses pattes, qui porte sa nourriture, Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Combien tu es grand, éternel. Et quand nous avons cet état d'esprit, tout ce qui est autour de nous est un appel à louer, à donner au Seigneur cette louange qui lui revient. Combien est-ce qu'il faut posséder d'argent pour en avoir suffisamment? À votre avis? Il y a un homme riche qui a répondu à cette question. Il a dit toujours plus. Il avait des millions dans sa banque. Mais quand on lui a dit combien est-ce que vous voulez avoir d'argent pour que ça soit assez, il a dit toujours un peu plus. Et en fait, c'est pas lui qui possédait l'argent, c'est l'argent qu'il possédait. Et c'est souvent ce qui se passe. Soit c'est nous qui régnons sur les choses qui nous entourent, ou soit c'est les choses qui nous entourent qui règnent sur nous. Et quand nous laissons la fleuve de bénédiction avoir son accès dans notre cœur, alors c'est ce qui se passe. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Est-ce que vous voulez régner dans la vie? Est-ce que vous voulez posséder l'essentiel ici-bas sur cette terre? Tout ce passage que nous lisons prend son sens quand nous réalisons aussi que Jésus a donné sa vie à la croix. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas devenir quelqu'un qui est sous contrôle, qui a la colère toujours juste, comme Jésus a pu se mettre en colère. Des fois, on entend des gens qui disent « Ah, j'ai eu une sainte colère !» Et en fait, c'est les sentiments qui ont débordé, mais c'est pas ça. Jésus, vous croyez qu'il s'est mis à pécher quand il s'est mis en colère dans le temple? Non, c'est parce qu'il fallait qu'il manifeste la crainte de Dieu autour de lui aussi. Et c'était ce que les gens avaient besoin d'entendre. Jésus s'est pas trompé à ce moment-là, hein. Des fois, on entend toutes sortes de choses. Non, Jésus était parfait. Sa colère s'est exprimée de manière très contrôlée. C'est comme quand on reprend un enfant. On a le choix de hurler dessus et des fois même de s'emporter en le tapant. Ou alors on a le choix de dire les choses fermement, mais sans crier. C'est exactement pareil. Ça, c'est la douceur du Seigneur. Là, il y a l'autorité qui est derrière, mais il y a la douceur du Seigneur. Et Dieu veut que nous ayons cette attitude de cœur qui se réalise dans notre vie. Regarde et fais-le d'après le modèle qui t'est montré. Là, nous avons un modèle qui est décrit, le début d'un modèle. Mais regardons et faisons d'après le modèle que le Seigneur nous montre.